Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une émission spéciale d'Une vie, une œuvre en hommage à l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, disparu le mois dernier. La vie n'est pas ce qu'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient, écrit Gabriel Garcia Marquez en épitaphe du premier tome de son autobiographie « Vivre pour la raconter ». Voici un homme qui a vécu par les histoires et pour les histoires, qui a raconté sa vie dans des œuvres de fiction et en même temps qu'il romançait son existence. Un homme qui croyait que l'identité était avant tout narrative et qui a fait du récit, à quelques exceptions près, la marque de fabrique de sa littérature et de sa pratique journalistique. Le titre de son autobiographie, « Vivre pour la raconter », le dit d'ailleurs sans faux semblant, la vie ne vaut au fond qu'une fois qu'elle est transformée en récit. Dans quel monde fantastique vivait Gabriel Garcia Marquez? Un monde certes lié à notre réalité, bien ancré dans le XXe siècle et ses soubresauts politiques, mais s'échappant sans cesse vers un ailleurs plus fantastique à l'image du réalisme magique, ce style dans lequel on classe d'ordinaire Garcia Marquez et qui vise à montrer la réalité par les yeux subjectifs d'êtres qui y voient des doubles fonds magiques, ensorcelés, magnifiques et terrifiants à la fois. C'est cet homme-là qui nous a quittés le 17 avril dernier à l'âge de 87 ans et que nous saluons aujourd'hui avec mes trois invités. D'abord Annie Morvan, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le département de littérature hispanophone aux éditions du Seuil. Vous avez traduit la plupart des livres de Gabriel Garcia Marquez en français, y compris son autobiographie. Philippe Lançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération et écrivain, bon connaisseur de l'Amérique latine et de Gabriel Garcia Marquez. Et enfin Gustavo Guerrero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en histoire culturelle et littéraire latino-américaine à l'université de Cergy-Pontoise et responsable du domaine hispanophone aux éditions Gallimard. Merci de votre présence à tous les trois. Nous saluons donc aujourd'hui ce grand auteur, mais nous ne sommes pas les seuls. Des millions de personnes ces dernières semaines ont voulu, de part et d'autre, lui rendre hommage.
Un grand écrivain est mort. Son travail a permis la diffusion à grande échelle et le prestige de la littérature dans notre langue. Ses romans lui survivront et continueront de gagner des lecteurs dans le monde entier.
Ce fut quelqu'un d'important pour toute notre société. Et puis nous représenter culturellement, au niveau mondial, c'est une perte inestimable.
C'est un homme immortel. Son œuvre a marqué le monde entier. Et c'est une satisfaction. Mais en même temps, c'est une tristesse profonde. Parce qu'avec lui, ce sont beaucoup de rêves qui meurent.
Alors on vient d'entendre des témoignages de Colombiens interrogés dans la rue. Il y a eu, Annie Morvan, un vrai élan de tristesse à l'annonce de la mort de Gabriel Garcia Marquez. Il aura été toute sa vie très proche, au fond, de ses lecteurs.
Bien sûr, parce que sa littérature était très lue. Je veux dire, on connaît en Colombie et dans l'Amérique latine la première phrase de 100 ans de solitude comme nous on connaît longtemps.
Alors,
je me suis couché de bonheur.
Encore.
Je la connais pas par cœur, mais oui, il était très lu et très proche. Enfin, je veux dire, il y a en Amérique latine, le public, les gens ont une ferveur et une admiration pour leurs écrivains qui est assez extraordinaire. Garcia Marquez ou Alvaro Mutis ou Mario Vargas Llosa remplissent des théâtres avec 4000 personnes. Donc tout ça se passe dans une ferveur immense. Donc je comprends que les Colombiens étaient extrêmement tristes de voir Gabo partir, certains, bien sûr.
Et alors vous-même, vous avez eu évidemment l'occasion de le rencontrer puisque vous avez traduit la plupart de ses livres. Votre première rencontre avec Garcia Marquez?
Alors c'était en 1981. Et le Nouvel Observateur m'avait demandé de traduire pour leur numéro de Noël, le numéro de fin d'année, une nouvelle que venait de publier Garcia Marquez qui s'appelait « La trace de ton sang dans la neige ». Donc je l'ai fait, il s'est trouvé que Garcia Marquez était à Paris à ce moment-là. Et donc nous nous sommes connus à cette occasion et ensuite on a eu une relation très suivis et très complices au cours de toutes les années où j'ai continué à le traduire.
Et alors, vous vous souvenez de l'effet
Ah oui, j'étais terrorisée, absolument. Parce qu'il voulait, il avait lu la traduction, il l'avait trouvé très bien, il était très content, mais il avait voulu me voir. Donc moi, j'étais arrivée, je me souviens, c'était à l'hôtel du Pont-Royal, hein, la rue du Bac, où il y avait encore un bar en sous-sol où allaient toutes les éditions Gallimard se retrouvaient là vers 6h du soir pour aller prendre un verre. Et donc, on s'était retrouvés ici. Et moi, j'étais terrorisée. J'avais apporté un grand panier avec plein de dictionnaires.
Ah bon,
avec
des dictionnaires ?
Des dictionnaires en disant, mais si jamais il n'est pas content, il faut trouver d'autres mots, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, on est restés, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 heures sur ce texte, à jouer avec le texte. Et je dois dire que ça a été une rencontre extraordinaire parce que je me suis rendu compte très rapidement que si c'était quelqu'un qui était extrêmement exigeant sur sa propre écriture, je veux dire où il n'y avait absolument rien à changer, ni un mot, ni une virgule, ni un adjectif, le texte en espagnol était parfait, autant il donnait à ses traducteurs toute l'attitude pour inventer une poésie dans une autre langue, sa propre poésie dans une autre langue.
Oui, parce que traduire Garcia Marquez, ça devait être extrêmement compliqué.
C'est très difficile, parce que ça a l'air très facile comme ça, parce que c'est une langue au fond très fluide hein, et qui est parfaite. Donc on le lit et on se dit, mais il n'y a presque qu'à faire du mot à mot et le suivre. Et en fait, pas du tout, parce que c'est une langue où d'abord il y a beaucoup d'images poétiques. Donc il faut trouver l'équivalent de la poésie dans la langue d'arrivée, donc dans ce cas-là dans le français. Et puis ensuite, parce que Garcia Marquez a une très grande économie des verbes, il emploie très peu de verbes, et une suradjectivation. Et ça, en français, on ne peut pas le mettre tel quel. Il nous faut des verbes et il nous faut des qui et des que, ça, que Garcia Marquez, il s'en dispense, il en met très peu. Et je veux dire, il avait une très grande générosité pour laisser son traducteur trouver ses propres des formes poétiques. Et moi, il m'a fait, combien de fois, il m'a fait lire en français des passages de ses livres qui lui tenaient vraiment à cœur. Et il fermait les yeux, il disait « Bon, maintenant, tu me le lis. » Et je le lisais en français et il écoutait la musique. Et c'était à ça qu'il reconnaissait, il se reconnaissait ou pas dans la langue française.
Gustavo Guerrero, vous l'avez également croisé, je crois.
Oui, je l'ai croisé à Caracas dans les années 70. Ça devait être 1977, probablement 78, il était avec Thomas Eloy Martinez, l'écrivain argentin, à l'Institut Romulo Gallegos de Caracas.
Donc c'était le début de sa grande célébrité alors.
Non, il était déjà un homme très célèbre. Il
68
avait déjà
gagné,
78.
Il ah oui, 10 ans, alors après 100 ans de célèbre. Solitude.
Mais ce qui impressionnait beaucoup chez Garcia Marquez, c'était la proximité qu'il savait créer avec son public et avec les gens qui l'entouraient. C'est un homme qui a été très aimé, parce que c'est un homme qui est resté fidèle à ses origines. Il n'est pas le fils d'une famille de notables comme Borges. Il n'appartient pas non plus à la classe des grands lettrés latino-américains. C'est un homme qui vient des secteurs populaires de la Colombie. Et en plus d'une partie de la Colombie qui est la côte caribéenne, qui a toujours été plus ou moins marginalisée par la structure du pouvoir colombien qui est centrée sur la partie andine, bien entendu. Donc c'est un homme qui a représenté pour beaucoup de Colombiens et des Latino-Américains une success story très très belle et qui est restée fidèle à cette histoire.
Alors il était devenu une sorte de citoyen de l'Amérique latine tout entière, vivant au Mexique, presque autant d'ailleurs que dans son pays natal, la Colombie, dont, disait-il dans cette interview, il restait très proche.
Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido.
Toute personne qui aura lu n'importe lequel de mes romans se rend compte que je ne suis pas partie. Ou si je suis partie, je n'ai pas coupé le cordon ombilical. Bien sûr, je vis dans un autre pays. Mais partir, c'est couper les racines. Et moi, j'aurais bien aimé, c'est vrai, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu couper les racines des Caraïbes. Je ne dis pas que j'ai coupé les racines avec mon pays. Je n'ai même pas coupé les racines avec les Caraïbes. Mais il y a bien longtemps que ce problème ne m'inquiète plus. C'est vrai, il y a eu une époque où l'on considérait comme une trahison le fait de ne pas vivre en Colombie. Mais moi, j'ai une réponse toute prête. Quel que soit l'endroit où je me trouve, j'écris un roman colombien. Les éléments de base, tous les thèmes que j'ai développés dans mes romans, existait déjà dans ma tête dès 10-11 ans et l'influence du vallenato, de toute cette culture populaire des Caraïbes, est ancrée au plus profond de moi depuis mes toutes jeunes années.
Et
tu n'as pas envie, quelquefois, de retourner vers les villages. En fait, je le fais, mais ce qui se passe maintenant, c'est que je n'y vois plus rien. Parce que j'arrive et je suis immédiatement entourée d'une multitude qui m'empêche de voir. C'est-à-dire que lorsque j'arrive, les villages ne sont plus les mêmes. Ce sont les amis, les gens qui vivent, qui changent le panorama. Bien sûr que j'adorerais, mais ce n'est plus possible. Bien entendu, c'est la doit arriver aussi dans les villes et pas uniquement dans les villages.
Alors je vous voyais, Gustavo Guerrero, écouter assez intensément quand même cet archive de Garcia Marquez.
Oui, je pense qu'il a dit très clairement que ce roman était colombien. Il a dit mes romans sont toujours colombiens, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il vit, il a redéfini la géographie culturelle de la Colombie. C'est-à-dire que ces romans, qui sont des romans de la Caraïbe colombienne, sont devenus les cœurs de la culture colombienne et un peu les centres d'une certaine image de l'Amérique latine, alors que la Colombie, comme je le disais tout à l'heure, est un pays qui était défini jusque-là par son appartenance à la région andine, plutôt aux montagnes, et c'est la magie aussi et la puissance de l'œuvre de Garcia Marquez qui est d'avoir redéfini toute cette géographie et de transformer la culture latino-américaine en partie en une banlieue d'Aracataca, si vous voulez.
Alors Aracataca, justement, Philippe Lançon, vous avez réalisé un long reportage pour la revue 21 dans ce village natal de Garcia Marquez, Aracataca, et vous écrivez que le paysage qui a inspiré Garcia Marquez a la délicatesse de lui ressembler. Alors décrivez-nous un petit peu ce paysage d'Aracataca qui est aussi ce qui a donc inspiré le village de Macondo dans Cent ans de solitude. Et en quoi est-ce qu'au fond vous arrivez à lire Garcia Marquez à la fois dans le paysage et peut-être dans le visage des gens que vous avez rencontrés là-bas ?
Mais il est décrit, il est ce paysage tel qu'il lui-même l'a décrit et dans certains de ses romans ou nouvelles et dans ses mémoires. C'est-à-dire qu'on arrive, alors on n'arrive plus comme du temps où il est retourné avec sa mère, ou du temps où il y est né, c'est-à-dire par bateau, puisqu'on traversait depuis la mer des espèces de marais. Et on se retrouvait, en fait, il y a des bananeraies, hein, des interminables bananeraies, toutes plates, hein, et qui est au niveau de la mer, ces bananeraies. Et puis tout à coup, très peu de temps après le village lui-même, qui est un bourg hein, en quelque sorte, la montagne.
Et vous avez retrouvé une atmosphère que vous,
oui,
vous avez vue dans les romans.
C'est là qu'on voit quelque chose de tout à fait étrange. C'est que vous voyez un écrivain de cette dimension symbolique, imaginaire et de cette force influence jusqu'à l'imaginaire des gens qui ne l'ont pas lu. Et dans un village comme celui-là. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'il faut faire pour comprendre ce que c'est que la puissance de l'écriture quand il s'agit d'un romancier comme ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce village. J'ai passé suffisamment de temps pour quand même y voir tout un tas de gens du haut en bas de l'échelle du village, qui est quand même pas très lointain. Et en fait, même des gens qui ne l'ont absolument pas lu en parlent et d'une façon ou d'une autre se définissent même subrepticement, par rapport à lui, par rapport à ses personnages et par rapport à cette ambiance qu'il a créée. Maintenant, la dernière chose que je voudrais dire pour l'instant, c'est que qu'est-ce qui caractérise Cent ans de solitude et un certain nombre, c'est finalement cette espèce de circularité épouvantable du destin dans lequel s'enfoncent existentiellement et politiquement les familles, en particulier les familles pauvres de cette région du monde. Ce qui m'a frappé quand j'y étais, c'est que suite aux guérillas diverses qu'il y a eu là-bas et qui continuaient à y avoir très peu de temps jusqu'avant mon arrivée, où on était encore quand même fouillé au corps par des militaires tous les 20 km ou tous les 30 km hein, quand on y allait, c'était que cette histoire de la violence, de la solitude qui s'en dégage, des séquestrations, de tout ça, continuait. Et donc, c'était plus tout à fait le massacre de la bananeraie de 1928, mais il continuait à y avoir des multinationales qui exploitaient horriblement les gens avec des morts. Et tout ça, c'était il y a 5-6 ans.
Alors, on va en parler de la violence. Peut-être un mot sur la famille de Garcia Marquez, Annie Morvan, plus ou moins abandonnée
par ses parents aux grands-parents, qui donc vont l'élever pendant les premières années de sa vie. Des grands-parents à la personnalité extrêmement forte, un grand-père conteur, racontant des histoires. Quelle atmosphère de l'enfance à Aracataca de Gabriel Garcia Marquez?
Aracataca et les années qu'il a passées avec ses grands-parents, avec ses grands-parents maternels. Le colonel Marquez, Nicolas Marquez et sa grand-mère, Tranquilina Iguaran, c'est vraiment les années de bonheur de sa vie. Et effectivement, donc sa mère, la fille du colonel Marquez, avait épousé ce télégraphiste dont la famille ne voulait pas du tout. Et le télégraphiste en question, donc Elirio Garcia, était parti essayer de gagner sa vie en dehors d'Aracataca, à Barranquilla et d'autres. Donc les parents ont laissé Gabito, comme ils l'appelaient, aux grands-parents. Et je veux dire, et ça a été probablement à la fois dans tout ce que pouvait lui raconter sa grand-mère, où c'était la superstition, les histoires magiques, donc ce que racontait, et terrifiante aussi, que racontait la grand-mère, et la force de ce grand-père, qui était un colonel qui avait fait la guerre des 1000 jours, donc qui avait été à la guerre.
Cette blessure avait beaucoup impressionné d'ailleurs Gabriel Garcia Marquez.
Qui avait beaucoup impressionné. Donc, si vous voulez, il y a la convergence là, entre deux personnes qui ont vraiment marqué son imaginaire à vie. Et donc, on le voit peut-être, on en parlera tout à l'heure. Mais si bien que dans son œuvre, il y a deux types de romans et de nouvelles. Ceux qui se passent à Macondo, à Aracataca, et ceux qui se passent dans El Pueblo, ce qu'il appelle le village, qui est un village, un bourg indéfini, où sont les livres les plus durs, les plus violents, et qui se passent dans le village où il a été vivre après avec ses parents.
Alors précisément, Chronique d'une mort annoncée, autre livre très connu de Gabriel Garcia Marquez, de quel côté du coup, de quel village finalement viendrait-il ?
Chronique d'une mort annoncée, en fait, c'est un meurtre, un fait divers, qui s'est passé quand la famille, les parents de Garcia Marquez, lui-même, ses frères et ses sœurs, habitaient à Sucre. Et il a décidé, il a voulu lui en faire la chronique 20 ans après ce meurtre. Et d'ailleurs, on voit très bien cela. Dans Chronique d'une mort annoncée, la famille est nommément. Il dit mon père, ma sœur, parce que c'est une enquête sur ce meurtre 20 ans auparavant, avec des témoignages de tout le village, mais aussi dans lequel la famille a été témoin, puisqu'elle, en plus de ça, elle connaissait très très bien la personne qui a été assassinée. Et c'est pour ça que la famille de Garcia Marquez a quitté Sucre après ce meurtre terrible. Donc c'est une chronique véridique.
Écoutons un extrait de Chronique d'une mort annoncée, lu pour nous en direct par Renaud Bertin.
Le jour où il allait être abattu, sa mère pensa qu'il s'était trompé de date en le voyant vêtu de blanc. Mais c'est aujourd'hui, lundi, lui rappela-t-elle. Alors il lui avait expliqué qu'il avait mis une tenue de circonstance au cas où il aurait l'occasion de baiser l'anneau de l'évêque, ce qui n'avait pas eu l'air d'intéresser Placida Linero. Il ne descendra même pas du bateau, lui dit-elle. Il vous bénira à la sauvette, comme d'habitude, et repartira comme il est venu. Il déteste ce village. Santiago Nassar savait qu'elle avait raison, mais les fastes de l'église exerçaient sur lui une fascination irrésistible. « On se croirait au cinéma », m'avait-il avoué un jour. En revanche, la seule chose qui préoccupait sa mère dans cette visite de l'évêque, c'était que son fils ne fût pas trempé par la pluie, car elle l'avait entendu éternuer durant son sommeil. Elle lui conseilla de prendre un parapluie, mais il lui fit de la main un signe d'adieu et quitta la chambre. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Victoria Guzman, la cuisinière, assurait qu'il n'avait pas plu ce jour-là, ni même une seule fois en février. Au contraire, me dit-elle quand je vins la voir, peu avant sa mort, le soleil chauffait plus tôt qu'en plein mois d'août. Elle était en train d'étriper 3 lapins pour le déjeuner, harcelés par les chiens aux aguets, lorsque Santiago Nassar était entré dans la cuisine. Il se levait toujours avec la tête de quelqu'un qui a mal dormi, rappelait-elle, sans tendresse. Divina Flor, sa fille, dont le corps commençait à peine à s'épanouir, avait servi à Santiago Nassar un bol de café sans sucre, arrosé d'alcool de canne, comme tous les lundis, pour l'aider à surmonter la cuite de la nuit. L'énorme cuisine, avec le chuchotement de l'âtre et les poules endormies sur leur perchoir, avait une respiration mystérieuse. Santiago Nassar avait croqué une autre aspirine et il s'était assis pour boire son café lentement, à petites gorgées. Il pensait au ralenti et ne quittait pas des yeux les deux femmes qui vidaient les lapins au-dessus du fourneau. Malgré son âge, Victoria Guzman gardait toute sa prestance. La petite, encore un peu sauvage, semblait étouffée sous le flot impétueux de ses glandes. Santiago Nassar l'avait attrapée par le poignet au moment où elle venait le débarrasser de son bol vide. « Il va être temps de te dresser, lui dit-il. » Victoria Guzman lui avait montré le couteau sanglant, bas les pattes, blanc, lui intima-t-elle sans rire. « Moi vivante, tu ne boiras pas de cette eau-là. »
Gustavo Guerrero, malgré cette musique agréable, on vient d'entendre quand même un extrait extrêmement violent. Il y a de la violence quand même, alors, à la fois dans ce milieu dans lequel a évolué García Márquez pendant toute sa jeunesse, et donc évidemment dans sa littérature.
Oui, il ne faut pas oublier que García Márquez est un homme qui a vécu, comme on l'a dit Annie Morvand tout à l'heure, avec ses grands-parents, et c'est avec ses grands-parents qu'il a échangé des souvenirs des guerres, par exemple du 19e siècle colombien, ou l'univers magique un peu de la grand-mère. García Márquez a un univers imaginaire qui n'appartient pas à sa génération, qui appartient à plusieurs générations de Colombiens, vous voyez. Et il y a toujours dans sa littérature quelque chose de nostalgique qui procède de la distance qui les sépare du monde dont il nous parle. Mais il y a aussi des aspects de la biographie de García Márquez qui sont très liés à la violence. Par exemple, en 1948, le 19 avril 1948, lors du soulèvement populaire à Bogota, qui va produire ce phénomène terrible de l'histoire colombienne qui s'appelle El Bogotazo, avec des milliers de morts, García Márquez a perdu une partie de ses livres et de ses manuscrits dans l'incendie de l'hôtel où il habitait. Il s'est retrouvé dans la rue à Bogota, au milieu des combats, et il a croisé sans doute ces jours-là la violence au plus près, et il a croisé aussi quelqu'un qu'il allait rencontrer plus tard dans sa vie et qui était à ce moment à Bogota aussi, le 19 avril 1948, c'est Fidel Castro.
Et puis il y a aussi la découverte de Don Emilio, ce voisin qu'il aimait beaucoup, suicidé, et la vie à Aracataca marquée par la violence de cette entreprise, United Fruits, qui a poussé l'armée à tirer à la mitrailleuse sur des grévistes en 1928, faisant 3000 morts. Enfin, c'est tout un imaginaire de la violence qu'on retrouve
entre 1000 et 3000, c'est...
Moins de
1000. La réalité est une chose, la fiction en est une autre.
C'est quand même beaucoup.
Et voilà, ça, le chiffre a augmenté en passant dans la mémoire, on va dire.
Est-ce que ce n'est pas quand même aussi la société traditionnelle qu'il décrit dans ses ouvrages, et notamment dans Chronique d'une mort annoncée? Puisque au fond, l'histoire de Chronique d'une mort annoncée, c'est quand même un meurtre que personne ne veut commettre, mais qu'on commet néanmoins parce que c'est un crime d'honneur, Annie Morvan.
Oui, c'est la vie des petites gens, hein, et des petits notables, hein, de province, de ces bourgs de province. Et dans Chronique d'une mort annoncée, c'est en fait ce que tout le monde savait, qu'on allait tuer Santiago Nassar, dont c'est le nom, c'est un nom fictif. Tout le monde dans le village le savait. Et personne n'y croyait, donc personne n'a prévenu la personne qui était menacée, qui donc allait être assassinée. Personne n'y croyait, ou bien les gens approuvaient ça, parce que c'était un crime d'honneur, puisque il s'agissait d'une jeune femme qui était arrivée, qui n'était pas vierge la nuit de ses noces. Donc le mari a voulu tuer l'amant de la jeune fille, celui qui l'avait défloré. Mais donc là-dedans, et c'est extraordinaire pour ce récit, parce que ce qu'il y a, c'est que ça fait un secret. Et je veux dire, le secret, c'est aussi très important dans la littérature de García Márquez. Et je crois que c'est ça qui l'a incité à écrire ce livre, non seulement parce que c'était un souvenir de jeunesse et qu'il avait les témoins 20 ans après, disons, sous sa plume, mais c'était comment est-ce que devant un fait comme ça, on peut garder un secret. Et je crois que c'est ça, en fait, qui l'a incité à écrire « Chronique d'une mort annoncée ».
Alors, poursuivons cette exploration en parallèle du Macondo Arakataka avec un extrait, cette fois, de « 100 ans de solitude », cette longue fable inspirée tout autant des mille et une nuits que de Gargantua, toujours par la voix de Renaud Bertin.
Dans le hameau retiré de Riohacha, vivait depuis fort longtemps un créole planteur de tabac, dont José Arcadio Buendía, avec lequel l'arrière-grand-père d'Ursula monta une affaire si prospère qu'en peu d'années leur fortune fut faite. Des siècles plus tard, l'arrière-petit-fils du créole épousa l'arrière-petite-fille de l'Aragonais. Voilà pourquoi, chaque fois que les folies de son mari la faisaient sortir de ses gonds, Ursula sautait 3 siècles d'événements fortuits en arrière et maudissait l'heure où Francis Drake attaqua Riohacha. Ce n'était qu'un simple moyen de se soulager car, à la vérité, ils étaient unis jusqu'à leur mort par un lien plus solide que l'amour, un commun remords de conscience. Ils étaient cousins, l'un de l'autre. Ensemble, ils avaient grandi dans l'ancien hameau dont leurs ancêtres respectifs avaient fait, par leur travail et leurs règles de vie, un des meilleurs villages de la province. Bien qu'on eût pu prévoir, depuis leur venue au monde, qu'ils deviendraient mari et femme, du jour où ils firent part de leur intention de se marier, leurs propres parents s'efforcèrent d'y mettre le holà. Ils craignaient que ces deux rameaux parfaitement sains, de deux lignées séculairement entrecroisées, ne connussent la honte d'engendrer des iguanes. Il y avait un précédent abominable. Une tante d'Ursula, mariée à un oncle de José Arcadio Buendía, eut un fils qui porta toute sa vie des pantalons flottants, aux jambes réunies en une seule, et qui mourut, vidé de tout son sang, après 42 ans d'existence dans le plus pur état de virginité, car il était né et avait grandi, pourvu d'une queue cartilagineuse en forme de tire-bouchon, avec une touffe de poils au bout. Une queue de cochon, qu'au grand jamais il ne laissa voir à aucune femme, et qui lui coûta la vie le jour où un ami boucher s'offrit à la lui couper d'un coup de hachoir.
Alors on a l'impression, en écoutant cet extrait Annie Morvan, que García Márquez est possédé par l'idée de la malédiction qui se transmet comme ça de génération en génération dans la famille. Comment est-ce que vous voyez ça?
Alors, bon, je ne sais pas si c'est vraiment, enfin, si on peut parler de malédiction. Je crois qu'il y a un côté, enfin, on a beaucoup glosé hein, sur 100 ans de solitude. On a dit que c'était un roman biblique, c'est une genèse, c'est la naissance et la mort d'un monde, d'un univers. Et le destin, en fait, de Macondo a été prédit par un gitan, Melquiades, qui condamne ce village à 100 ans de solitude. Donc c'est sans doute ça la malédiction. La malédiction, en fait, qui court tout autant de 100 ans de solitude, c'est la solitude. Autant c'est un livre qui était en gestation hein, chez García Márquez depuis qu'il était enfant, depuis qu'il avait la vocation d'écrire, depuis qu'il avait essayé un premier roman qui s'appelait La Casa, et qu'il n'arriva pas à terminer. Et tout dans les 4 livres précédents, tout Macondo est déjà là. Et quand on relit Les feuilles dans la bourrasque ou Pas de lettres pour le colonel ou La mala hora ou Les funérailles de la grande mémé, on voit que les choses petit à petit se mettent en place. Les personnages sont là, les lieux sont là. Certains faits, alors moins magiques, moins rablaisiens, si vous voulez, que dans 100 ans de solitude, mais 100 ans de solitude est tout à coup l'aboutissement d'un projet littéraire qu'il avait depuis des années. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il construit un mythe. Et je veux dire, c'est pas seulement le mythe de Macondo, c'est pas le mythe de la Colombie, c'est le mythe de l'Amérique latine. Tout à coup, avec 100 ans de solitude, l'Amérique latine existe parce qu'il y a un écrivain qui l'a écrite.
Mais alors en même temps, lui, peut-être par forfanterie, mais disait quand même assez facilement que ce livre avait été fait avec des trucs et que en réalité, toute l'exégèse qui était faite autour de ce roman devenu mythique, mais aussi mythique par la manière dont il a été écrit, par ce qui a été dit avant sa publication, que tout cela, au fond, c'était, il y avait quelque chose de faux là-dedans.
Je veux dire, chaque lecteur peut, a son avis sur le livre. Je veux dire, 100 ans de solitude, c'est la culture populaire, mais c'est aussi Cervantes, Rabelais, Faulkner, Les Mille et Une Nuits, Virginia Woolf. Je veux dire, c'est le produit d'une bibliothèque qu'il a dans la tête.
Te veo hoy en Ciudad de México con el premio Nobel Gabriel García Márquez.
Je te rencontre aujourd'hui à Mexico avec le prix Nobel pour García Márquez 10 jours avant la remise de ce prix. Gabriel García. Une question littéraire. Quel a été l'écrivain qui a eu la plus grande influence sur ta vie littéraire?
De veras. Gabriel García Márquez.
Si tu veux que je te dise vraiment la vérité, eh bien, c'est Gabriel García Márquez. Et ce n'est pas être insolent. Le métier d'écrivain est une des plus solitaires du monde. Bien sûr, on reçoit de l'aide de tous ses amis cultivés, de tous les livres que l'on a lus, de tous les auteurs que l'on connaît. Mais à l'heure fatidique, face à la page blanche, on ne peut compter que sur soi-même.
Alors, Gustavo Guerrero, pas d'influence, il s'influence lui-même.
Non, énorme, des influences énormes d'écrivains très, très divers. Et au cœur de cette bibliothèque, Annie Morvan vient de citer quelques auteurs. Je pense qu'il faut placer Faulkner, bien entendu. García Márquez raconte dans sa biographie et dans plusieurs interviews à quel point il était anxieux quand il voyait arriver à Barranquilla les bateaux avec les containers des livres argentins qui ramenaient en Colombie les traductions faites à Buenos Aires des romans de William Faulkner. Et comment il avait lu ça d'une manière très, très avide. Et à côté de Faulkner, et l'idée de construire un univers autour d'une géographie, comme on retrouve chez Faulkner, il y a cette découverte chez García Márquez d'une certaine continuité entre l'univers du sud des États-Unis et l'univers des Caraïbes, où il vit. Et il y a également cet auteur dont il va visiter la maison à Prague, et il va pleurer devant la maison de Kafka à Prague. C'est un des grands moments, disons, des voyages de García Márquez en Europe, cette visite à la Prague de Kafka.
Il aimait beaucoup la métamorphose, et c'est presque du réalisme magique, enfin.
Le réalisme magique a été disons, défini à plusieurs reprises comme une réappropriation latino-américaine de Kafka, si vous voulez. C'est les naturels dans les merveilleux, le merveilleux dans les naturels, mais bien entendu avec tous les éléments traditionnels de la culture latino-américaine.
Proust également, c'est peut-être un peu plus étonnant.
Cent ans de solitude est donc né d'un certain nombre de livres précédents, de même que La recherche est née des plaisirs et des jours de Jean Santeuil. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des écrivains qui se sont longtemps cherchés à travers l'écriture pour parvenir à créer une œuvre maîtresse, qui est l'œuvre quand même centrale, hein, qui donne finalement toute la grammaire du temps, puisque c'est quand même là aussi, on pourrait en parler des heures, mais le rapport au temps, qui n'est pas le même chez Proust et chez García Márquez, mais enfin quand même, il y a des choses qu'on pourrait... c'est-à-dire, comment dire ça? Là où le temps surabonde et envahit tout, c'est en même temps comme s'il n'existait plus. On entendait tout à l'heure cette histoire des siècles qui passent et dans la lecture qu'on avait. C'est-à-dire, on ne sait absolument plus, quand on lit, il faut lire La Cent ans de solitude comme une transe. Je pense que le lecteur devrait être en transe quand il le lit, de même que d'une certaine façon, bien que étant extraordinairement professionnel dans son écriture au moment où il écrit Cent ans de solitude, García Márquez lui-même était probablement dans une sorte de transe. Et c'est un livre dont je connais des gens qui les a mis en transe et littéralement en fièvre, parce qu'on ne sait plus tout à fait ni où on en est avec la généalogie des personnages, dont les noms se répètent, ni avec le temps, 3 siècles, 1 siècle, 10 ans, etc. Tout ça se dissout dans une matière, une pâte, qui est tout à fait saisissante et qui est vraiment alors là, chez lui comme chez Proust, mais d'une manière très très différente, totalement centrale, enfin qui est la patte même du livre.
D'où cette récurrence de cette petite phrase bien des années plus tard, et bien des années plus tard, pour paraphraser Garcia Marquez, une période difficile va s'ouvrir pour lui, c'est celle pendant laquelle il décide de s'installer à Paris.
Un après-midi, alors que nous déambulions comme aujourd'hui sur le boulevard Saint-Michel, mais il y a 25 ans, il ne faut pas l'oublier, nous avons acheté Le Monde. Dans Le Monde, il y avait un petit entrefilé sur la Colombie. Rojas Pinilla avait fermé Les Spectateurs. Or, García Márquez était le correspondant de ce journal à Paris. Il en vivait, d'ailleurs. Ce n'est pas grave, m'a-t-il dit, alors que nous prenions un petit café. À côté de nous, il y avait des joueurs d'échecs. Et certainement, dehors, comme aujourd'hui, une de ces éternelles manifs du quartier latin. Ce n'est pas grave, m'a-t-il dit. Mais ça l'était, parce qu'il n'a plus touché un seul centime. On l'a vu avec des chaussures trouées, des pulls élimés, perdre des kilos. Il ne mangeait que des pâtes. Et il a vécu une année dans cette petite chambre d'hôtel sans pouvoir payer le loyer. Mais très bizarrement, la propriétaire ne lui fit pas payer le loyer. C'était une dame exceptionnelle, cette Madame Lacroix. Quelques années plus tard, elle ferait la même chose avec un jeune écrivain péruvien, Mario Vargas Llosa, qui était aussi à Paris sans un sou. Sans le savoir, cette dame a été un des grands mécènes du boom littéraire. Madame Lacroix, pourquoi vous avez autorisé García Márquez vivre un an chez vous sans payer?
Parce que M. García Márquez m'était très sympathique. Il me paraissait très sérieux parce qu'il travaillait beaucoup, alors que ses amis faisaient souvent la fête. Oui, et puis il faut laisser la chance toujours à quelqu'un dans la vie. À moi, on m'a toujours laissé ma chance et j'ai toujours fait confiance.
Mais vous avez fait la même chose pour M. Vargas Llosa. A hecho lo mismo por
Mais vous avez fait la même chose pour Mario Vargas Llosa, parce que Mario a vécu ici. C'est ici qu'il a écrit La ville et les chiens. Et il ne vous a pas payé le loyer pendant longtemps.
Parce que M. Vargas était aussi un Sud-Américain et j'ai toujours eu confiance dans mes étudiants sud-américains.
Alors, Madame Lacroix, García Márquez l'aimait bien, mais ce n'était pas le cas avec tous les Parisiens. Il parlait de cette fabuleuse capacité des Français à couper les cheveux en quatre, en disant que cette capacité à couper les cheveux en quatre avait beaucoup vieilli. Quand même, la période parisienne, on le sait, ça fait partie du mythe, il mangeait dans les poubelles, période extrêmement difficile. Vous pouvez nous la resituer un petit peu, Gustavo Guerrero?
Bon, mais je pense que c'est un homme qui vient aussi en Europe, dans cette espèce de voyage initiatique de beaucoup d'Américains du Nord et du Sud qui vont venir en particulier à Paris. Vous avez vu comme moi le film de Woody Allen, Midnight in Paris. Et ils viennent à Paris à la recherche d'une certaine modernité, à la recherche de la capitale de la République mondiale de lettres et aussi à la recherche d'un public, de rencontrer des gens qui puissent lire et faire traduire leurs œuvres. Donc pour García Márquez, ça a été une expérience plus dure que pour d'autres parce que lui, il n'est pas venu en tant qu'ambassadeur d'un pays latino-américain. Il n'est pas venu non plus en tant qu'étudiant boursier. Il est venu en tant que correspondant d'un journal qui a été fermé en plus pendant
qu'il était là
très, très rapidement. Donc il s'est retrouvé sans ressources. Heureusement que sa logeuse était une femme des cœurs qui lui a permis de survivre.
Il a toujours eu dans sa vie des gens qui l'ont logé soit gratuitement ou
oui,
qui lui ont
oui,
permis
oui.
En
mais,
fait,
mais
de
Mais c'était
survivre.
L'esprit aussi de la France d'après-guerre. Vous savez, on a beaucoup de récits parmi les latino-américains, notamment par exemple de Julio Cortázar, qui nous raconte la générosité des gens dans ces années qui ont suivi la guerre et qui ont rendu, disons, la ville et les rapports entre les gens plus humains.
Philippe Lançon.
Oui, donc pour dire simplement, on est en 56-57 hein, quand il est à Paris. Et donc, il vit donc chez Madame Lacroix et beaucoup de latino-américains qui crèvent plus ou moins la dalle sont dans des petits hôtels du quartier latin. Et pour donner un peu l'ambiance, toute l'Amérique latine de cette époque-là, tous les pays sont dirigés par des dictateurs quasiment. Et donc, il y a une histoire qui est très drôle que Garcia Marquez a lui aussi racontée. Il y a un de ses amis, un de ses premiers amis, qui est un grand poète cubain, Nicolas Guillén, qui avait pour habitude de se lever très tôt le matin, de lire tous les journaux latino-américains. Il n'y avait pas encore Internet, hein, donc il les trouvait, il les lisait. Et puis après, il ouvrait les fenêtres et il criait les nouvelles par les cours à tous les latino-américains qui vivaient et qui crevaient la dalle dans les chambres d'à côté. Et un jour, il annonce comme ça, l'homme est mort, el hombre ha muerto, un truc comme ça. Et en fait, tout le monde a cru que c'était son dictateur, parce qu'il y avait des Colombiens, etc. Et en fait, là, il parlait ce jour-là de Perón, l'Argentin, qui était mort. Donc c'est quand même très drôle de voir. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il s'est retrouvé à cette époque finalement, Vargas Llosa a souvent dit depuis que c'est à Paris qu'il avait pris conscience du fait qu'il était non pas péruvien, mais latino-américain. Et ça a été vrai très probablement pour beaucoup d'entre eux, et aussi peut-être pour Garcia Marquez, même si effectivement il a beaucoup plus de réticence que d'autres vis-à-vis de la France et de la culture française, ça, et de la langue française même, d'ailleurs, d'une certaine façon. En tout cas, elle lui paraît moins cohérente avec sa musique. Hein. Mais en tout cas, malgré cette réticence, il est absolument certain que c'est dans cette époque-là, dans ce Paris-là, qu'avec d'autres, il a en partie pris conscience du fait qu'il n'était pas que colombien, mais latino-américain.
Donc il écrit quand même, tant bien que mal, quelques articles, même si il n'a plus de journal officiellement. Et le journalisme, ce sera d'ailleurs son métier, vraiment son métier. Ça va compter énormément. Il commence très jeune, à 21 ans, dans un journal colombien, à écrire des chroniques, des girafas, des chroniques insolentes. Et l'un de ses premiers articles, ce sera au sujet d'une catastrophe meurtrière à Medellín. Il s'en souvient dans son autobiographie « Vivre pour la raconter ». Et c'est cet extrait que nous lit toujours Renaud Bertin.
C'était un endroit pelé et inhospitalier situé sur la route de Medellín, à Rio Negro, qui à 8 h du matin n'avait plus pour habitants que des victimes. Les stations de radio avaient grossi la nouvelle en donnant des détails sanglants et en lançant des appels au secours, si bien que les premiers volontaires étaient arrivés avant les pompiers. À la mi-journée, deux nouveaux éboulements s'étaient produits sans faire de victimes, mais la nervosité était à son comble et une radio locale s'était installée sur place pour retransmettre la catastrophe en direct. Presque tous les habitants des quartiers et des villages voisins étaient sur les lieux, ainsi que les curieux accourus des quatre coins de la ville aux appels de la radio. Et les passagers descendus des autobus ne faisaient qu'accroître la pagaille. En plus des quelques habitants ensevelis sous les pierres le matin, les éboulements successifs avaient fait quelque 300 victimes. Mais en fin d'après-midi, plus de 2000 volontaires continuaient d'apporter des secours incohérents aux survivants encore sous le choc. À la tombée de la nuit, il n'y avait plus un seul endroit où respirer. À 6 heures, la foule était compacte et le chaos indescriptible, quand 600 000 mètres cubes de terre et de pierre avaient roulé tout à coup dans un épouvantable fracas, faisant autant de victimes que s'ils étaient tombés sur le parc Berrio. Une catastrophe si soudaine que le docteur Javier Mora, délégué aux travaux publics de la municipalité, avait trouvé sous les décombres le cadavre d'un lapin qui n'avait pas eu le temps de détaler. Quand j'arrivais sur les lieux, 2 semaines plus tard, seuls 74 cadavres avaient été exhumés et de nombreux survivants étaient hors de danger. La plupart d'entre eux n'avaient pas été victimes de la catastrophe naturelle, mais de l'imprudence et d'une solidarité mal organisée. Comme pour les tremblements de terre, il fut impossible de calculer le nombre de personnes qui avaient profité de l'occasion pour disparaître sans laisser de traces, afin de ne pas payer une dette ou d'échapper à leur femme. Cependant, la chance eut aussi son mot à dire, car selon une enquête postérieure, le premier jour, tandis que l'on tentait de sauver des vies, une masse de roches avait été sur le point de se détacher de la montagne et de produire une avalanche de plus de 50 000 mètres cubes. 15 jours plus tard, avec l'aide des survivants remis du choc, je pus reconstruire l'histoire que dans la précipitation et le désordre du moment, personne n'avait pu raconter.
C'est du journalisme, Philippe Lançon, mais c'est aussi évidemment de la littérature. D'ailleurs, vous venez de republier pour Libération un entretien que Garcia Marquez avait accordé. C'était à Pierre Goldman en 78, dans lequel Garcia Marquez se dit fondamentalement journaliste. Donc bien après quand même les énormes succès littéraires qu'il a connus.
Oui, parce que d'abord, il l'est toujours resté. Il a, plus tard, il écrit Récit d'un naufragé, puis, Noticia d'un sequestro, comment on dit, Récit d'un journal d'un enlèvement, beaucoup plus tard, au moment de la dernière. Des problèmes qu'il y a eu en Colombie dans les années 80. Mais donc, d'une part, il est toujours resté journaliste. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'il a, en quelque sorte, payé sa dette à ce métier qu'il a aimé plus que tout en créant une école de journalistes, la Fondation pour le Nouveau Journalisme à Carthagène et qui, dont il s'est véritablement occupé. Et la troisième chose, effectivement, qui est plus important que, sur l'écriture, on pourrait dire que comme Hemingway ou quelques autres, il a toujours considéré, il a toujours dit en tout cas, que les deux, à la fois son œuvre et son travail journalistique, il y avait des ponts entre les deux et qu'il n'était pas question de les renier d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le journalisme lui a appris l'art de l'enquête, enfin plutôt l'artisanat de l'enquête et l'art du récit qu'il a développé. Et c'est bien dans ce métier qu'il a appris ça. Donc après, l'univers mental, mémoriel et le génie propre à Garcia Marquez en a fait autre chose dans ses romans. Mais si on lit de près aussi bien les articles, ces grands articles, que ses romans ou ses nouvelles, on s'aperçoit que le fonctionnement remémoriel qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'articles est le même, c'est-à-dire il fonctionne de la même façon. Donc l'écriture est unie, simplement elle passe à quelque chose de plus métaphysique dans les romans, dans ce qui est de l'ordre de la fiction.
Et même dans la méthode, parce que quand il écrit L'automne du patriarche, il se documente extraordinairement pendant de nombreuses années sur les dictateurs, leur vie. Il lit tous les jours tout ce qui peut concerner tous les dictateurs autour du monde.
Comme pour le livre sur Bolivar aussi, hein, sur le général dans son labyrinthe. Je crois que ça, c'est très intéressant de voir l'œuvre journalistique et l'œuvre littéraire de Garcia Marquez. Parce que, d'une certaine façon, de même que son engagement politique, je veux dire, ce sont trois facettes d'un homme, l'écrivain, le journaliste et l'homme engagé, disons. Ne l'appelons pas un homme politique, mais un homme engagé. Donc, tous ces trois mondes, en fait, s'interpénètrent continuellement, mais restent très séparés. Ça peut paraître paradoxal, mais je veux dire, dans les 5000 pages de chroniques et d'enquêtes de journalisme, c'est l'écriture de journalisme. Ensuite, l'écriture du roman, l'écriture littéraire, c'est autre chose. Et évidemment, l'engagement politique que l'on retrouve dans tout ça, dans ces chroniques journalistiques, dans ces romans, elle est présente partout, mais il y a une séparation très nette entre les trois, alors que tout est interpénétré, disons.
Alors, par exemple, cet automne du patriarche, est-ce que pour vous, il est inspiré par, allons-y, Franco, on sait qu'il l'écrit à Barcelone, allons-y, Fidel Castro, pourquoi pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis peut-être qu'on peut dire un petit peu ce que c'est que cette œuvre, deuxième œuvre vraiment majeure de Gabriel Garcia Marquez.
Il a essentiellement écrit, il l'a écrit avant de connaître Fidel Castro, hein, donc déjà c'est quand même quelque
chose. Il savait qui il était, en tous
les bien
cas.
Sûr, mais il n'avait pas encore l'expérience du personnage, donc il m'a toujours paru assez peu probable que ce soit inspiré par Fidel Castro. Franco, peut-être davantage. Mais bon, c'est des figures de dictateurs. Et on pourrait multiplier les exemples. Annie et Gustavo le savent. Qui étaient effectivement des personnages dont la fin était interminable, hein, autant que la vie. Et donc, il avait un vivier très fourni où s'inspirer.
Un extrait donc de L'automne du patriarche, lu pour nous par Renaud Bertin.
La deuxième fois qu'on le découvrit rongé par les charognards dans le même bureau, avec le même uniforme et dans la même position. Aucun d'entre nous n'était assez vieux pour se rappeler ce qui était arrivé la première fois, mais nous savions qu'aucune preuve de sa mort n'était évidente, étant donné qu'une vérité cache toujours une autre vérité. Les moins prudents eux-mêmes ne se fiaient pas aux apparences. On l'avait si souvent affirmé. L'épilepsie le ravageait, et il s'écroulait sur son trône en pleine audience, se tordant sous les convulsions et vomissant une écume de fiel. Et il avait perdu la voix à force de discourir, des ventriloques se dissimulant derrière les rideaux pour faire croire qu'il parlait. et des écailles d'alose lui poussaient sur le corps pour le punir de sa perversité. Et dans la fraîcheur de décembre, sa hernie lui chantait musique et il ne pouvait se déplacer qu'à l'aide d'une chaise orthopédique dans laquelle il trimbalait sa roupette herniée. Et un fourgon militaire avait livré à minuit par la porte de service un cercueil avec des incrustations d'or et des torsades pourpres. Et quelqu'un avait vu Laetitia Nazareno fondre en larmes dans le jardin de la pluie. Pourtant, quand les rumeurs de sa mort semblaient les plus sûres, on le voyait paraître plus vivant et plus autoritaire que jamais, au moment le plus imprévu, pour imposer d'autres caps imprévisibles à notre destin.
Un patriarche qui pourrait aussi être Pinochet, puisqu'au fond, c'est en 1973 que García Márquez va vraiment s'engager, puisque dans sa période révolutionnaire, il est assez peu finalement sur le devant de la scène, et c'est avec un serment en 1973 qu'il va réellement prendre position contre Pinochet, Gustavo Guerrero.
Oui, je pense que les dictateurs qu'il dépeint là, dans ce roman est un homme de la fin du 19e et début du 20e siècle. Et je pense qu'il y a un décalage très fort entre les dictateurs qu'il va représenter dans son roman. C'est encore les souvenirs du grand-père et les souvenirs de la grand-mère et la réalité latino-américaine des années 70 où on retrouve des dictateurs
autrement plus. Et 232 ans, donc il n'est de toute façon pas très réel.
Ouais. Oui, mais je veux dire, quand on voit les romans, on voit les décalages entre les dictateurs qu'il va décrire et finalement la dictature qu'on est en train d'avoir dans les années 70. Il ne faut pas oublier que Pinochet est l'homme qui va lancer le néolibéralisme en Amérique latine. Il ne faut pas oublier non plus les méthodes plus que drastiques des militaires argentins, toute l'opération Condor. Donc il y a un décalage entre la pré-modernité, si vous voulez, de ce dictateur et l'extrême modernité et pélicrosité des dictatures qui se déroulent à ce moment-là. Mais cela n'empêche que le roman de García Márquez est une manière de dire aussi son engagement contre la dictature dans les années 70, contre ces dictatures-là. En tout cas dans les années 70, et aussi de prolonger une tradition du roman des dictateurs latino-américains. Et on dit aussi payer la promesse d'écrire un roman sur le dictateur qu'il avait fait à ses amis du boom, c'est-à-dire à Carlos Fuentes et à Mario Vargas Llosa.
Ce serment quand même, en 1973, de ne plus écrire tant que Pinochet sera au pouvoir, il ne le tiendra pas réellement, il ne pourra pas réellement le tenir.
Heureusement.
Et heureusement pour nous. En revanche, quand même, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la qualité de la relation qu'il entretenait avec Fidel Castro, Philippe Lançon.
Annie parlait tout à l'heure à propos de son œuvre du secret. Eh bien, c'est un secret.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez alors?
Eh bien, voilà, donc je ne suis pas dans le secret. Je crois
comment
que
ça, vous n'êtes pas dans le secret?
Fidèle est le seul qui soit.
Je suis sûr qu'Annie Morvan l'est un petit peu.
Donc, on sait à peu près dans quelles circonstances il l'a rencontré, ça c'est certain. Donc, au moment, justement, il lui a envoyé l'automne du patriarche en le lui dédicaçant, si je me souviens bien.
Ça, c'est quand même ambigu comme geste.
Eh bien, il voulait, à ce moment-là, il soutenait depuis de toute façon le début, la révolution cubaine, et il a continuer à la soutenir. Ils ont été deux hein, à continuer dans les grands auteurs du boom à la soutenir, Julio Cortázar, l'Argentin, et puis lui, et tous les autres, à partir en gros de ce qu'on a appelé l'affaire Padilla, de 68 à 71, en ordre plus ou moins dispersé, se sont distanciés de manière de plus en plus agressive de cette révolution. Donc il a continué, et à partir d'un certain moment, logiquement, soutenant cette révolution, à mon avis, très probablement aussi contre ce qu'on n'appelait pas encore des donneurs de leçons, mais il considérait que ces leçons venaient d'un Occident qui n'avait pas à en donner à l'Amérique latine et à l'histoire qui avait été la sienne. Et donc à cette révolution cubaine qui était le produit d'un espoir, avec tout ce qu'il a appelé toutes les merdes qu'elle commençait à porter, et qui donc il fallait en être solidaire. Donc au sens propre, il a été un compagnon de route, puis très probablement de plus en plus un véritable ami, et certains disent même peut-être le seul véritable ami qu'a eu Castro. Donc, 100 ans de solitude, à Cuba, la solitude de Castro s'est au moins éclairée de la présence de García Márquez.
Annie Morvan.
L'Amérique latine, dans les années 50, il y avait encore de ces dictateurs dont parle l'automne du patriarche. Pérez Jiménez, je crois que c'est au Venezuela. Il y avait Trujillo à Saint-Domingue. Il y en avait un autre dont le nom m'échappe en Colombie, Rojas Pinilla. Donc l'Amérique latine, dans les années 50, elle était encore gouvernée par des dictateurs terribles. La corruption, la pauvreté, la misère, etc. Donc Cuba a représenté tout à coup, cette révolution cubaine, un immense espoir pour tout le continent. Et bien sûr, pour nous, d'ici, de l'Europe, c'est très difficile à comprendre. Moi-même, j'ai été...
C'est plutôt la durée, en fait, de cette amitié qui est difficile à comprendre.
Alors, comprenez-la aussi par la fidélité latino-américaine. Quand on a un ami et c'est pour la vie. Et puis, il faut dire aussi que García Márquez avait une fascination extraordinaire pour le pouvoir. Et il était fasciné par ça. Donc, ce qui l'a amené à rencontrer Castro, à vivre à Cuba dans une maison prêtée par Castro, à rencontrer Bill Clinton,
François Mitterrand.
François Mitterrand, je veux dire, ça le fascinait. Et il n'a jamais cherché à avoir lui-même un pouvoir politique. Il ne se définissait pas du tout comme un intellectuel. Il s'est toujours défini comme un écrivain. Mais il était fasciné de fréquenter ce monde-là.
Puis le Nobel, c'est une forme de pouvoir quand même. Il a apprécié d'avoir le Nobel et il ne l'a pas refusé comme beaucoup d'autres.
Non, il
enfin,
a
pas beaucoup non, d'autres d'ailleurs, non, comme
non,
quelques autres.
Non, il était ravi. C'était l'Amérique latine tout entière qui est allée recevoir le Nobel.
Mais lui-même était extrêmement charismatique. D'ailleurs, sa célébrité égalait celle des chefs d'État. Il y a cette anecdote un peu incroyable quand à Madrid, en l'absence du président colombien qui est retardé, c'est lui qui inaugure une usine de mise en bouteille d'une société colombienne. Enfin, des histoires comme ça, il y en a des tas. C'était une rockstar au fond et il avait lui aussi atteint un niveau de charisme tout à fait extraordinaire, mais qui pouvait le gêner aussi peut-être à un certain moment.
Il adorait ça. Je veux dire, il était ravi d'être devant les gens et de montrer qu'il était là et qu'il était important. Il aimait beaucoup ça.
Parce qu'il dit quand même, cette phrase étonnante, et c'est peut-être par là que nous terminerons l'émission, au sujet de l'automne du patriarche. C'est proche d'une confession personnelle, un livre totalement autobiographique, presque un livre de souvenirs. Si, en le lisant, au lieu de voir un dictateur, vous voyez un écrivain célèbre, terriblement mal à l'aise dans sa gloire, grâce à cette clé, vous pouvez comprendre le livre. Gustavo Guerrero.
Je pense qu'il a tout à fait raison, que c'est un livre où le dictateur devient parfois humain, trop humain, et parfois il tend effectivement à rassembler un peu à ce qu'on peut imaginer l'automne du patriarche García Márquez.
Et cette solitude aussi du patriarche, est-ce que c'était la solitude de García Márquez? Vous avez dit tout à l'heure, Annie Morvan, qu'au fond, c'était le thème principal peut-être de la plupart de ses romans. Est-ce que vous la sentez, cette solitude?
C'est un thème qui traverse toute son œuvre. La solitude, comme il a été seul aussi, il le raconte aussi à Rakataka, hein, bien qu'il y avait les grands-parents et ça, il a été seul quand il vivait avec ses parents. Donc, c'est un thème qui traverse toute l'œuvre et qui va jusqu'à l'Amérique latine, puisque le discours du Nobel, du prix Nobel, s'appelle « La solitude de l'Amérique latine », parce que l'Amérique latine, dans le monde, est un continent à part que les autres continents ont laissé seul.
Et c'est d'ailleurs ce mot « solitude » qui est le mot le plus présent dans le discours du prix Nobel de Gabriel García Márquez en 1982.
Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas.
Un grand merci à tous les trois. Philippe Lançon, je rappelle votre dernier roman, L'Élan, paru chez Gallimard en 2013. Annie Morvan, vos traductions des livres de Gabriel García Márquez sont toujours disponibles et j'imagine plus que jamais en ce moment dans les librairies. Et Gustavo Guerrero, également toujours disponible chez Gallimard, votre anthologie des nouvelles d'Amérique latine. c'est la fin de ce Une vie, une œuvre, d'une forme un peu particulière par rapport à d'habitude. À la technique aujourd'hui, c'était Clément Daté, lecture Renaud Bertin, traduction Claudine Rimatei, attachée d'émission Marie Boéda, stagiaire Marie Vigie, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Lionel Quentin. Et dès la semaine prochaine, nous retrouverons notre format documentaire avec une émission que je vous conseille vivement. Elle est de Louise Hénaff et Charlotte Roux et porte sur le parcours de l'activiste irlandais Bobby Sands. Vous pouvez par ailleurs entendre plusieurs émissions sur l'Irlande du Nord la semaine prochaine sur France Culture, notamment dans La Fabrique de l'Histoire. Et puis comme chaque semaine, vous le savez, notre émission est téléchargeable et réécoutable en ligne. Vous pouvez également retrouver notre petite carte mentale interactive des inspirations, des personnalités dont nous parlons dans l'émission. Elle circule sur les réseaux sociaux.